Merci. Nous allons commencer cette matinée par deux sujets insolites, ou a priori insolites, qui montrent en tout cas l'étendue de la palette des intérêts j'allais dire des élèves conservateurs. Non, là, il s'agit de directrices de bibliothèques. Alors, a priori insolites, quand on les rapproche en tout cas des bibliothèques, hein, le premier concerne plutôt la question des usages et en particulier la question de la press people, et le second la question des plages et en particulier des bibliothèques de plage. Donc nous allons commencer avec Mathilde Perroux qui va s'installer en tribune. Mathilde Perroux est responsable du pôle lecture publique à la bibliothèque Mériadec à Bordeaux. Pardon. Je vais mettre son petit chevalet. Je vois ma collègue Muriel Amar qui me fait des grands signes. Je pensais que tu voulais que je parle de Bordeaux. Alors, puisqu'on aura Bordeaux pour commencer, Saumur pour suivre. Donc on est dans des terroirs, là aussi, puisqu'il est question de territoire. Et là, en l'occurrence, des terroirs de vin. Donc, merci Annie. Merci beaucoup. Coopération oblige. voilà, donc Mathilde, vous avez 45-50 minutes, ce qui nous laissera le temps ensuite de peut-être moins même éventuellement, ce qui nous laissera le temps de vous poser des questions et voir de prendre le temps pour débattre aussi, hein, c'était rappelé en ouverture, c'est l'idée de cette journée. À vous de jouer.
Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier l'ENSIB et la BPI de m'avoir invité à participer aujourd'hui à cette journée d'études sur les lieux du livre et usage de lecteur. Donc, la question de la place du lecteur, de la presse people en bibliothèque peut sembler effectivement quelque peu iconoclaste et peut même prêter à sourire au premier abord. Et ce fut d'ailleurs la première action d'une majorité de mes interlocuteurs à l'énoncé du sujet de mon étude. Pour ma part, ce thème a tout de suite retenu mon attention, car il me permettait de mettre en résonance différents axes de nos métiers, à savoir le public, les collections et les professionnels des bibliothèques. Donc au départ, je suis partie d'une simple interrogation. Pourquoi la presse people, presse populaire dans tous les sens du terme? Pour vous donner une idée, si on regarde les statistiques de vente de 4 magazines, Closer, Gala, Public, Voici, en 2012, c'est plus de 1,3 million d'exemplaires vendus et 11 500 000 lecteurs chaque semaine. Donc pourquoi cette presse si populaire semble a priori peu présente dans les fonds des bibliothèques municipales? Comment expliquer ce décalage entre des usages massifs et des pratiques professionnelles plutôt timorées dans ce domaine? Quelle place est accordée au final au sein de ces bibliothèques aux lecteurs de la presse people? Et en définitive, qu'est-ce que cela dit des bibliothèques? Alors, quelques constats au préalable. Alors, étonnamment, il y a peu d'écrits académiques sur le thème de la célébrité, de la presse people et de son lectorat, alors que, à l'inverse de la recherche anglo-saxonne, autour de la notion de celebrity culture, qui est au carrefour de la sociologie de la culture et des sciences de l'information et de la communication, où on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que cela en dit long sur la perception, au final, de la recherche française de cette presse? Alors, à cet égard, je vous invite à lire un article assez incisif de la sociologue Nathalie Hennick dans l'année sociologique en 2011, sous le titre « La consommation de la célébrité ». Et en fait, elle se demande si le retard pris dans ce domaine par la recherche française ne serait pas dû à une probable inhibition, tant ce type de pratique est dévalorisé dans le monde académique. Alors de même, comme je le disais, il y a au final très peu d'enquêtes et de statistiques sur ce lectorat. Il y a une étude qui a été réalisée il y a plusieurs années sous la houlette du groupe Prisma avec les étudiants de Sciences Po Paris, mais il n'y a jamais eu de communication sur cette étude. Alors au fil de mes recherches, se sont profilées en filigrane au travers de cette question bon nombre de problématiques qui touchent au cœur des bibliothèques. La question de l'offre et de la demande, le sujet de la désacralisation de la culture, les nouveaux modes de fréquentation, les représentations symboliques des bibliothèques, tant du côté des usagers que du côté des bibliothèques, des professionnels des bibliothèques. Autant de problématiques qui font écho, je dirais, aux interrogations actuelles de la profession, avec au centre ce questionnement, quelle place et quel modèle pour les bibliothèques aujourd'hui ? Donc, je ferai donc dans un premier temps une présentation de la presse people et de son lectorat, Et puis, un point sur la prise en compte, la perception de ces pratiques au sein des bibliothèques municipales. Et enfin, dans un troisième temps, quelques pistes autour des enjeux qui sous-tendent cette problématique. Alors, la presse people. Donc, tout d'abord, quelques repères sur la presse en général. Donc, vous le savez peut-être, les Français ont une véritable appétence pour la presse, et en particulier la presse magazine. Donc, comme je vous donne les derniers chiffres de Audi Press One, qui est l'organisme chargé de la mesure de l'audience de la presse en France. Et donc, vous voyez que les chiffres sont assez conséquents. Et pour vous donner une idée, donc, les Français lisent en moyenne sur un an 6,4 titres différents, dont 1,4 quotidien et 5,5 de magazines. Et les plus gros lecteurs sont les femmes, avec 7,1 titres lus en moyenne, et les individus âgés de 35 à 49 ans. Et ce qui est phénomène intéressant, c'est l'ère du multi-reading, c'est-à-dire que aujourd'hui, il existe la lecture papier et la lecture digitale sous différents supports, les tablettes, les smartphones et les liseuses. Donc là, en fait, 52% des individus qui lisent un titre en version digitale lisent également le même titre en version papier. Alors, au sein de cet ensemble, donc un sous-ensemble de poids, la presse people. Alors tout d'abord, je voulais vous donner une définition, parce que ce n'est pas forcément si évident que ça de définir la presse people, tant la contamination entre les différentes familles de presse aujourd'hui est patente, en particulier entre les féminins par exemple et la presse people. Donc là, en fait, je reprends la définition du sociologue des médias Jean-Marie Charon. Voilà, des publications dont le concept est centré sur la vie des célébrités. Stars du spectacle, donc il en cite un certain nombre, mais c'est vraiment, on reste dans le domaine des célébrités. Et de même, en fait, la presse people, c'est une dénomination contemporaine, mais pour une presse à la très longue histoire. En fait, c'est l'héritière des almanachs, des chroniques mondaines antérieures. Il se trouve que jusqu'à la Libération, toutes ces chroniques-là étaient incluses dans les titres. Ce n'est qu'après la Libération où, en fait, il y a des magazines qui sont sortis portant uniquement sur l'actualité des célébrités. Et ce qui la distingue, c'est son style distinctif, c'est-à-dire un contenu très référencé, une importance conséquente donnée à l'image, à la photographie, avec une narrativité feuilletonesque et une approche connivente qui lui est très propre. Alors, aujourd'hui, on peut quand même constater que c'est un phénomène sociétal. Et on voit cette contamination sur toutes les différentes familles de presse. Dans beaucoup de familles de presse, on sent l'influence de cet aspect de la presse people. Alors, pour mener cette étude, en fait, j'ai choisi un corpus de 9 titres qui me semblaient représentatifs de cette famille. Donc, je vous les cite. Closer, France Dimanche, Gala, Ici Paris, Oups, Paris Match, Point de vue, Public, Voici. Alors, le sous-ensemble de la presse people, c'est 57 titres à 92% hebdomadaires. Donc, c'est de la presse qui a un prix vraiment modéré, hein. C'est en moyenne 1,59 €. Et donc, voilà, c'est la troisième famille de revues en volume de vente après les magazines de télévision et les féminins. Et phénomène intéressant, c'est qu'un quart des ventes est réalisé pendant la période estivale. Alors, on peut quand même rappeler que même si la presse people, à l'image de l'ensemble de la presse générale, connaît une baisse de ses ventes, elle reste quand même très importante. Donc, là, vous voyez, c'est l'ensemble des ventes réalisées en 2012 par les 9 titres choisis dans le corpus. Donc, vous voyez, 21,4 millions de lecteurs chaque semaine. C'est presque 35% de la population française. Le ratio, c'est ça. Et donc ça, c'est avec, on en discutera, mais donc c'est avec Paris Match. Si on enlève Paris Match, on est quand même à 17 millions de lecteurs. Donc on peut quand même dire que ces revues font partie intégrante de l'imaginaire de beaucoup de personnes. Et donc, fait que je notable aussi, c'est la forte présence de ces journaux sur les différents supports de lecture digitale. Site internet, application tablette, application mobile. Donc j'ai effectué une typologie, entre guillemets, de la, des revues People françaises. Donc là, c'est les chiffres plus détaillés de l'audience. De la diffusion. Là, c'est l'audience. Donc, j'ai effectué une typologie de la presse People. Donc voilà, les revues People historiques, ici Paris, France Dimanche, les revues People haut de gamme, entre guillemets, Point de vue, Paris Match, Gala et le dernier né Vanity Fair. Je l'ai marqué pour vous donner une petite idée. Et les revues People Nouvelle Génération, voici Closer, Public, Oups. Donc je vais aller donc dans les historiques, je vais survoler un petit peu toutes ces familles. Donc ici Paris et France Dimanche. Alors là, c'est très distinctif. On a un ton très qu'on reconnaît tout de suite, versant volontiers dans le catastrophisme, qui en fait leur marque de fabrique, hein, et qui est assimilé pleinement par leurs lecteurs et qui est attendu par ses lecteurs. Donc c'est plutôt des vedettes françaises. Un lectorat plutôt âgé, mais très fidèle. On est à 80% de taux de réabonnement. Même si ICI Paris tend à cibler aujourd'hui de se repositionner plutôt sur un public plus jeune, mais ça vise, c'est quand même plutôt un public plus de 50 ans. Et c'est des magazines qui résistent bien à la baisse. Ils ont perdu à peine 1% de lecteurs depuis l'année dernière, contrairement à d'autres. Et donc France Dimanche et ICI Paris, en termes d'exemplaires vendus, on est déjà à 600 000 exemplaires. Donc pour vous donner une idée, France Dimanche, c'est plus que M, le magazine du monde, plus que Psychologie Magazine, et c'est plus que Prima. Alors, les hauts de gamme. Donc, point de vue. Donc là, on est plutôt dans des magazines au ton très révérencieux à l'égard des célébrités. Et pour reprendre la dénomination de Jamil Dakhlia, on est dans le mode mimétique par le haut, c'est-à-dire les stars sont mises sur un piédestal, admirées et enviées. Donc là, l'actualité de la célébrité est complètement mise en scène de concert entre le média et la célébrité, et on joue sur la fausse proximité. Par exemple, on trouve beaucoup dans ce type de magazine, que ce soit Point de vue, Gala ou Paris Match, des reportages sur l'intimité des stars, où on pénètre dans leur domicile, où il y a la photo de leurs enfants, etc. Donc, Point de vue. Alors, Paris Match. Donc, Paris Match, donc, il a été créé sous le modèle des picture magazines américains, comme Life ou Look. Alors, Paris Match, il est vrai que dans le référentiel de beaucoup de professionnels de bibliothèque, il n'est pas considéré comme un magazine people, mais comme un magazine d'actualité. Donc, du coup, je me suis un peu amusée à comptabiliser, à la fois en 2012, mais aussi en 2013, les couvertures de mai à octobre entre 2013. On compte 25 couvertures sur 26 consacrées à des célébrités. Et on retrouve aussi, c'est pour ça que je vous ai mis cette couverture, on retrouve complètement la sémiotique people dans les titres qui sont annoncés. Vanessa Paradis, sa double vie. Fiona, l'odieux mensonge. Maxime Le Forestier, ses secrets de famille, il nous reçoit chez lui. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui fait la patte du discours people. Donc Gala. Alors Gala, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il il appartient au même groupe de presse que Voici. Si vous voulez, c'est un peu le pendant plus conventionnel et traditionnel à Voici. Et assez intéressant, il a été lancé dans un format un peu atypique. C'est un des formats les plus, même s'il existe aujourd'hui sous un plus petit format, c'est un très grand format avec du papier glacé, le choix est fait de très belles photographies. Donc là, on est, c'est un objet un peu luxueux, qui se veut un peu luxueux. Et donc, un des derniers nés aujourd'hui, c'est Vanity Fair, qui est la déclinaison du journal, du magazine américain. En moyenne, on est là à peu près à 100 000 exemplaires vendus. Et donc, le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, est l'ancien présentateur et journaliste Michel Denisot. Alors, les nouvelles générations. Donc là, c'est des magazines, c'est en quelque sorte un sous-ensemble de l'ensemble People. Et là aussi, il se distingue par... donc vous voyez des couvertures très, très chargées, en multiples vignettes, avec un ton très connivant et interactif, avec un art consommé du titre et de la légende, il faut bien le dire. Donc, un des plus connus, c'est, et donc qui s'adresse aussi essentiellement à un lectorat plus jeune, les moins de 35 ans. Et là, on est dans le mode mimétique par le bas. On rend quelque part les célébrités plus humaines. Et on trouve énormément de reportages, dans, que ce soit Voici et dans ses, ou Closer ou Oups et Public, de reportages sur les défauts physiques des stars. Donc, quelque part, on rend vraiment plus humain la star. Finalement, elle est un peu comme nous parce qu'elle a les mêmes problèmes avant l'été. Voilà. Et donc, un qui, quelque part, a révolutionné, a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la presse, c'est Voici, qui a été lancé en 87. Donc, aujourd'hui, il se repositionne plutôt vers le féminin, hein, avec, propose beaucoup, beaucoup de pages mode, voyage, beauté. Alors, aujourd'hui, on est à des diffusions, 350 000 exemplaires vendus chaque semaine. Dans les années 90, les années phares, on était à 800 000 exemplaires vendus chaque semaine. Donc, le leader du secteur aujourd'hui, c'est Closer, donc, dont la couverture en rose a été de multiples fois copiée et reprise. Fait significatif, c'est Closer qui a diffusé la fameuse photo du président Hollande et de son scooter. 600 000 ventes de ce numéro-là. Public. Donc là, vous remarquez, on est vraiment dans quasiment le copier-coller de la couverture. Hop. En particulier Public et Oups, on vise là les 15-35 ans. C'est des magazines, donc on retrouve essentiellement des stars américaines ou des vedettes de la télé-réalité française. Et ce qui est intéressant, que ce soit dans Public, c'est leur présence sur la lecture digitale. Donc là, je voulais marquer, par exemple, l'application mobile de Public, elle est sixième position du palmarès OJD. Pareil, c'est le septième titre le plus téléchargé sur tablette. Donc Oups, c'est un des derniers, et là, on est vraiment dans la cible 15-30 ans. Donc là, comme vous voyez, des reportages sur les défauts physiques des stars, très populaires. Qui est le lecteur de la presse People? Alors, si je schématise et si je vais vite, je dirais que c'est une femme et elle est jeune. Mais on voit bien qu'on n'a pas le même lectorat selon les revues People. Donc, par exemple, Closer, il y a une étude qui a été faite. Le profil moyen, c'est une femme de 36 ans. Mais 80% des lectrices sont entre 25 et 49 ans de Closer. Et donc, ça me permet de faire un peu de zoom sur les jeunes et cette presse, les 15-30 ans. Donc là, pour le coup, elle fait vraiment entièrement partie de leur vie quotidienne, de leur référentiel et de leur imaginaire. Donc, il y a une étude très intéressante que je vous invite à lire, qui a été publiée par la BPI, qui s'appelle « Les jeunes et la presse magazine », où on voit donc des chiffres très, très importants, une explosion des pratiques des 15-30 ans vis-à-vis de la presse People, puisque 33% lisent régulièrement cette presse People, et on arrive presque à 1 sur 2 quand on incorpore aussi la presse dite « trash ». Et donc, avec une approche complètement, pour le coup, décomplexée de cette tranche d'âge, et qui devient presque expert en décryptage des médias. Alors, je vous lis le témoignage d'une jeune fille, Cécile, 14 ans, parue dans Okapi, où elle dit « Je lis Public, Voici, Closer, Oups. D'accord, ce n'est pas très intelligent, mais quel mal y a-t-il si on n'en abuse pas? Tout ce qui est écrit ne reflète pas forcément la réalité, mais c'est si divertissant. Et en plus, c'est facile à lire. » Et ce que montre en fait l'étude de Paola Spaventa et Amandine Pellizzari, c'est que effectivement, ce type de revue les divertit, mais les rassure aussi, et participe au final à leur construction en tant qu'individu. Donc, voici la conclusion des deux chercheuses. Ainsi, les jeunes lecteurs trouvent dans ces magazines non seulement des modèles de vie, de réussite, de style, mais également dans la confrontation de leur expérience aux récits d'autrui, les clés de décodage de leurs propres réactions et les moyens de se construire. Sous leur apparente trivialité, les magazines People ont donc un rôle important d'accompagnement des jeunes adultes dans leur vie. Alors, de même sur les usages, vis-à-vis de la presse people sur l'ensemble de la population. On retrouve vraiment des usages vraiment décomplexés vis-à-vis de cette presse people. Alors on peut peut-être se l'expliquer par le caractère dissonant aujourd'hui des pratiques culturelles, pour faire lien avec l'étude de Bernard Lahir. D'autres y voient même une forme de comportement à dimension subversive. Donc, par exemple, Jean-Marie Charron écrit dans un article du Monde, face à une presse un peu institutionnelle et révérencieuse à l'égard des élites, cette presse people plaît aux jeunes. Elle se situe dans un registre insolent, humoristique et grinçant. Ce mouvement est lié à la quasi-absence de presse populaire quotidienne en France qui cultiverait notamment la mise à distance des élites. Donc on est loin en fait de la vision d'un lectorat crédule, manipulé et aliéné, comme on a souvent considéré ce qui relevait de la culture populaire ou de masse. Donc déjà, Richard Hogarth, dans La culture du pauvre, montrait que les usages sont plus individualisés, liés à des trajectoires personnelles. Et donc un autre témoignage public, donc c'est un jeune qui donne ce témoignage, public, en 10 minutes c'est fini, quand on est claqué on le regarde, car on a besoin de ne pas être sérieux quand on est en vacances. C'est un magazine de transport ou de vacances. De même, Marie-Claire, attachée de presse 50 ans, citée par le journal Ouest-France. Dans Gala ou Voici, les articles sont drôles. Il y a toujours des titres mirobolants qui vous promettent des histoires incroyables et des infos qui n'en sont pas. J'aime ce côté exagéré, car on sait que tous ces scoops sont en réalité de faux scoops. C'est amusant, on échange ensuite des potins avec les copines, alors qu'au fond, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Le principe, c'est qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. C'est vrai, c'est un peu du voyeurisme, mais assumé, de la part des stars comme des lecteurs. Donc au niveau des usages, effectivement, c'est des magazines qui sont lus rapidement, souvent à l'extérieur, dans les transports, dans la salle d'attente du coiffeur, du dentiste, et aussi des magazines qui sont très partagés et échangés. Donc on le voit en fait dans le taux de, quand on calcule le taux de circulation de ces revues, et elles sont parmi les plus importantes de la presse. Par exemple, le magazine Oops, on atteint des taux de 12,5 d'échanges. Closer 9,5, Voici 9,3. Donc comme on le voit, la presse people est un phénomène tant médiatique que sociétal, au lectorat large et diversifié. Autant d'attributs qui devraient le porter naturellement à retrouver ses revues dans les fonds des bibliothèques municipales. Donc l'appétence réelle du public pour ces types de revues se reflète-t-elle au final dans les collections des bibliothèques ? Et quelle est la perception et la réception de ces revues par le professionnel des bibliothèques ? Alors, comment on pourrait définir la présence de la presse people dans les bibliothèques municipales en France ? Je dirais qu'elle est à la fois présente et peu présente. En fait, c'est Paris Match qui fausse un peu la donne. Donc, si on inclut, donc j'ai réuni un panel de 100 établissements et j'ai regardé la présence des titres de mon corpus sur ce panel de 100 établissements. Donc, en fait, sur 100, 71 présentaient des abonnements à Paris Match. Si on enlève Paris Match, là, on descend à 22 sur 100 établissements proposant de la presse people. D'ailleurs, ce phénomène de surreprésentation de Paris Match, on le retrouve aussi dans les plans de conservation partagés des périodiques. Ce qui ne va pas quand même sans poser quelques interrogations sur le futur et sur aussi l'équilibre de la conservation de certains magazines. Donc en fait, même s'il n'y a pas de rejet immédiat de la part des bibliothécaires, on sent un certain embarras sur cette question. Alors, on pourrait avancer quelques explications. Il y a une méconnaissance et de forts préjugés autour de cette presse qui est jugée vulgaire, mal écrite et par trop sensationnelle. Et en fait, c'est assez amusant, c'est que souvent, les attributs qui ont été portés à cette presse, c'était souvent les mêmes qui étaient portés vis-à-vis de ce qu'on a pu appeler les mauvais genres en bibliothèque. La BD, la presse sentimentale, les livres de science-fiction. Ces attributs qui sont portés par les professionnels de bibliothèque, en fait, quelque part, leur perception, elle est à rebours de celle que se fait une partie du lectorat de cette presse, en particulier les jeunes, qui la jugent plutôt distrayante, irrévérencieuse et quelque part réconfortante. La sociologue de la lecture, Nicole Robin, est intervenue lors d'un colloque sur les mauvais genres, et donc elle va plus loin en écrivant « Les lettrés s'apitoient devant ces lecteurs qu'ils pensent manipulés par des éditeurs sans scrupules. Une partie des lecteurs de mauvais genre savent qu'ils lisent des contes et s'enchantent des nombreuses variantes d'un seul et même conte. La stupeur et le désarroi des lettrés rappellent les querelles fomentées autour de la presse du cœur dans les années 50, du livre de poche dans les années 60, des encyclopédies par fascicule et de la bande dessinée dans les années 70. Et quelque part, je dirais, on a l'impression que ça remettrait en cause l'utopie de la démocratisation culturelle, le fait d'accepter ces revues dans les collections. Donc j'ai effectué un questionnaire et une enquête qui a été envoyée auprès d'un certain nombre de professionnels de bibliothèque. Et en fait, oui, ce qui est ressorti, c'est voilà, pas un rejet média, mais finalement une grande méconnaissance de cette revue, puis finalement un certain embarras. Et en fait, il n'y a qu'une bibliothécaire qui m'a avoué qu'elle lisait très régulièrement Voici, ce qui n'était pas du tout le cas de la très grande majorité. On sent qu'il y a une image un peu sulfureuse et inconvenante attachée à ces revues. Donc, par exemple, il y a une personne interrogée qui me dit « Nous n'avons pas à déterminer ce qu'aime le public et nous devons essayer de répondre à ses attentes sans tomber dans la démagogie. Alors oui, nous pouvons souscrire à Paris Match, éventuellement à Gala ou Point de Vue. Par contre, les autres titres appartiennent vraiment à la presse de Caniveau. » Deuxième témoignage. « À titre personnel, je ne suis toujours pas favorable à ces revues que les gens achètent volontiers, prix très bas, et dont le contenu me paraît, même à titre de loisir et de lecture sur place, plutôt superficiel, vite balayé par l'actualité. Au final, on a l'impression que ces revues ne sont pas du tout placées sur le même plan d'autres revues. Parce que ce que dit la personne là, on pourrait tout à fait l'appliquer à certaines revues féminines, ou même à certains numéros de magazine, de l'équipe magazine. Ça, l'actualité est vite balayée d'une semaine à l'autre. Et d'ailleurs, certaines m'ont indiqué, ont été plus loin, me disait donc une autre collègue, disait, débat enflammé sur les titres people les plus racoleurs. Par contre, un titre comme Têtu a pratiquement fait l'unanimité dès le début. Une autre m'indiquait, mais en dehors de toute notion de valeur ou de légitimité en matière d'offres culturelles, on peut s'interroger sur la nature même de ces magazines, dont l'intérêt du contenu reste extrêmement volatile dans l'actualité vite datée, une semaine après le scoop ne l'est plus. Encore une fois, ça s'applique à d'autres revues qui sont dans les fonds des bibliothèques. Au final, on peut se demander si cette relation un peu compliquée avec ce type de revue n'est pas liée à des réflexes encore teintés de prescription de la part des bibliothécaires qui souvent sont revenus quand même dans les témoignages apportés. Et alors, je me suis aussi basée sur une étude qui avait été menée sous la direction de Denis Merclin en Seine-Saint-Denis. Et à l'époque, il y avait un grand débat sur l'abonnement ou non à Closer parmi les collègues du réseau de médiathèques de pleine commune. Et donc, une des personnes citées, donc on sentait vraiment un clivage dans l'équipe, presque moitié-moitié sur cette question. Et un des collègues... et qui est cité, indique « La mission d'une bibliothèque, c'est quand même d'élever, ne serait-ce que d'un degré, le niveau de conscience et de réflexion des gens. Closer ne répond pas à ça. Au contraire, ça les conforte dans leur bassesse. Pour moi, c'est non. » Donc, c'est assez violent quand même comme point de vue. Toujours parmi les réponses qui ont été, que j'ai reçues à ce questionnaire, peut-être plus modéré, mais on sent vraiment qu'il y a une sorte d'embarras et de difficulté à appréhender ce type de revue. Malgré une demande forte du public, on se heurte à une représentation idéalisée des collections de périodiques par les bibliothécaires qui souhaitent proposer dans les bibliothèques seulement des titres acceptables. Et une autre qui m'indique, c'est une non-demande du public, il est vrai que nous préférons proposer des magazines un peu plus intellectuels, type Géo. Et au final, s'il y a un témoignage qui, je trouve, résume un peu cette ambivalence et cette difficulté de positionnement de la part des professionnels de bibliothèque, c'est celle-ci. Donc, la place de la presse people n'a pas fait l'objet d'une discussion dans l'équipe. Sans doute, l'équipe ne souhaite-t-elle pas voir ce média dans nos collections. Paradoxalement, la demande des usagers est bien réelle et connue de tous. Alors, la réponse serait que ce type d'abonnement ne rentre pas dans la politique documentaire. Et en fait, de fait, les revues People, au final, elles sont déjà présentes dans les collections des bibliothèques, en particulier si les bibliothèques possèdent des abonnements en ligne, donc type Le Kiosque ou Europresse, puisqu'en fait, on s'abonne à un package, un pack, où on ne peut pas toujours choisir les titres qui sont dedans. Et par exemple, dans lekiosque.com, on retrouve de la presse People. Mais c'est vrai que quand j'avançais cet argument auprès des collègues, j'ai l'impression que c'était dans une dimension parallèle, ces abonnements électroniques. Mais de fait, la presse People est déjà là. Et je vous le confirme, puisque j'ai contacté un des directeurs d'Europresse, Closer est la revue la plus consultée après les journaux Le Monde, Libération et Le Parisien. Donc en fait, c'est la première revue consultée sur la base Europresse dans les bibliothèques. Alors, à contrario, pourquoi certaines bibliothèques ont fait le choix d'intégrer des revues People dans leur fonds ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart, ces dernières l'ont fait dans le cadre d'un projet d'établissement, avec une volonté de quelque peu se décentrer, de déplacer les lignes établies. En effet, sur la question de la place du lecteur de Press People, perce différents enjeux. En fait, pour la plupart, la démarche d'acquisition de ce type de revue s'est faite dans une réflexion autour de la question des publics et sur la prise en compte d'une demande. Alors, il y avait aussi un souhait d'élargir le public, de conquérir, voire de reconquérir un certain public, aller au-delà finalement d'un public traditionnel des bibliothèques, à savoir les classes moyennes, interroger aussi la non-fréquentation de certains publics, et au final modifier l'image de la bibliothèque, qui est souvent perçue comme une institution rattachée au monde de l'école et des études. Et donc, les abonnements à des revues People étant un moyen parmi d'autres, effectivement, de mener à bien leur projet. En effet, parce que si on regarde les études, les revues, c'est un formidable support, quelque part, pour vraiment faire venir peut-être un public qui ne se sent pas toujours à sa place dans les bibliothèques, parce qu'on s'aperçoit que c'est une lecture assez non discriminante. Dans l'ouvrage d'Olivier Donat, on voit bien que c'est des revues qui sont... Enfin, la presse et les magazines sont vraiment lus par tout un chacun, que ce soit des ouvriers ou des CSP+. Et donc, parmi les témoignages des bibliothécaires, donc je vous en ai mis deux, donc voilà, qui étaient dans cette démarche et pourquoi elles ont proposé des revues People dans leur collection. Donc personnellement, ça ne me choque pas qu'une bibliothèque propose ce type de revue. Au contraire, cela pourrait ramener un certain type de public qui considère les bibliothèques comme des lieux savants où il n'y a que des livres. Cette perception de la bibliothèque est très tenace. Et donc la deuxième me disait, cela permet au public qui apprécie ces revues de reconnaître la bibliothèque comme un lieu pour eux. Effet miroir. Alors parmi des exemples, par exemple la bibliothèque municipale de Mulhouse, c'est assez intéressant, en fait c'est suite à une enquête sociologique sur leur public qui s'est déroulée en 2007, qu'entre autres actions, ils ont réfléchi et ont acquis des abonnements à Closer, Paris Match et Public. Donc l'étude était assez, les conclusions de cette étude étaient assez dures je trouve pour les collègues, puisque voilà ce qui était indiqué. L'étude sociologique, en comparant la sociologie mulhousienne et la sociologie des inscrits à la bibliothèque, faisait apparaître une réalité sociale difficile pour la lecture publique, avec la quasi-disparition d'un lectorat ouvrier, la diminution des inscrits des classes moyennes, supérieures et des étudiants, et donc la baisse d'une part importante du public pour lesquels les collections étaient constituées. Alors à Pleine Commune, dans le réseau des médiathèques de Pleine Commune, c'est à l'occasion de l'ouverture de nouvelles médiathèques du réseau qu'il y a une grande réflexion participative autour de la politique documentaire, vraiment la volonté d'attirer de nouveaux publics, parce qu'à l'époque, je crois qu'ils étaient à 9% d'inscrits, et donc à juste titre, ils s'en inquiétaient. Donc, ce qui est assez intéressant dans la démarche des collègues de Pleine Commune, c'est que vous retrouvez toute cette démarche participative sur Internet. Il y a énormément de documents sur la manière dont ça a été appréhendé. À la bibliothèque de Toulouse, ils ont mis récemment un système plutôt souple d'acquisition des revues qui leur permet au final de tester quasiment en direct les nouveaux titres qui sont proposés au public. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser ces nouveaux supports, Ça permet aussi de, quand on propose de nouveaux formats de bibliothèque, de proposer quelque part d'autres collections à ce moment-là. Donc effectivement, il y a les bibliothèques de plage, transition toute trouvée avec Brigitte tout à l'heure. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui ont répondu à mon sondage, une collègue indiquait « Pour la bibliothèque de plage, nous offrons à nos lecteurs une grande variété correspondant à la détente et au loisir. J'ai également procédé à un test. J'ai laissé des magazines du type Glamour, Biba, Cosmopolitain, non achetés sur le budget de la bibliothèque, mais sur le mien. Et j'ai pu constater que ces revues sortaient beaucoup et étaient appréciées du public féminin et masculin. » De même, cela participe aussi à toutes ces opérations que beaucoup de collègues mènent en dehors des murs de la bibliothèque, vers des publics quelque part qui ne viennent pas à la bibliothèque et qu'on va, donc du coup, on va au-delà de, on va à leur rencontre. Donc, par exemple, la bibliothèque municipale de Chambéry a énormément développé tout ce qui est action hors les murs. Et l'abonnement au titre Voici s'est fait aussi dans cet esprit-là. Les collègues m'indiquaient, nous emmenons souvent hors les murs 3-4 numéros de Voici, dans les résidences sociales le plus souvent. Et j'ai recontacté les collègues de Chambéry et ils m'ont indiqué que ça, tant d'ailleurs dans la bibliothèque que hors les murs, il y avait un véritable plébiscite de la part des usagers autour de cette revue. Donc ils envisagent en fait l'abonnement à un deuxième titre People. Donc au travers de la problématique de la prise en considération du lecteur de la presse People, se pose en définitive, je trouve, la question de l'exclusion. Et de son pendant, de l'inclusion. En prenant pas en compte, le plus souvent d'ailleurs de manière inconsciente, certaines pratiques, n'excluons-nous pas, n'indiquons-nous pas à une partie du public qu'il n'a pas sa place en bibliothèque. Et à son opposé, les bibliothèques ne doivent-elles pas accompagner, être un levier d'inclusion sociale ? De par leur positionnement au cœur des territoires, leur accessibilité, les bibliothèques participent pleinement, je trouve, aujourd'hui, à la construction des individus, à leur accomplissement en tant que citoyens, et elles ont la légitimité d'investir ce champ d'action. Si vous y réfléchissez, aujourd'hui, il y a finalement peu d'endroits dans notre société où c'est ouvert un certain nombre d'heures, c'est gratuit, c'est chauffé, et on ne demande rien à celui qui y passe la porte. Donc, c'est vraiment des très grands atouts dont nous disposons pour amener à nous le public. Donc il s'agit de proposer des collections adaptées, hybrides et non excluantes. En effet, les collections des bibliothèques pour une partie publique, en particulier les classes défavorisées, peuvent être perçues comme une imposition quelque part de la culture dominante. On l'a vu, les magazines, c'est une lecture peu discriminante. Elles ont un fort potentiel en plus pour fidéliser et attirer et faire revenir une partie du public. Alors ça peut être aussi dans le cadre d'actions contre l'illettrisme. Et là, pour le coup, les revues People ont toute leur place parce qu'elles sont très référencées, donc elles font partie de l'imaginaire de bon nombre de personnes. Elles sont majoritairement constituées de fonds iconographiques, photographiques. Les textes sont courts, en langage familier. Et je pense aussi que ça peut être un outil d'intégration pour des personnes parlant mal le français, car en fait, dans ces revues, on retrouve un univers familier, les vedettes de la télévision, les stars, etc. De même, ces revues, on l'a vu, elles sont très échangées, très partagées, donc elles favorisent la sociabilité, la discussion. Et en ça, les bibliothèques sont aussi des lieux de socialisation au sein de territoires. Et je pense que vous le savez tous, quiconque a passé les portes d'une bibliothèque voit que l'espace consacré à la presse et aux revues, quelque part, c'est un espace particulier, qui a ses habitués, qui a quelque part ses propres rites, ses propres codes, et qui sont souvent très publicités par un public qui n'est pas forcément inscrit à la bibliothèque, mais qui le fréquente beaucoup et de manière très régulière. Et je trouve que ce type de magazine où finalement on peut parler facilement autour et engager la conversation pourra en être un élément. D'ailleurs, il y avait une étude, je vous invite à lire, il y avait une étude qui a été réalisée par une collègue sur l'espace presse de la bibliothèque de Lyon qui est particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, il y a une des personnes interrogées qui trouve qu'il n'y a pas assez de revues du type Paris Match. Voilà. Alors, pour finir, en conclusion, je dirais qu'il ne s'agit pas évidemment de prôner l'abonnement systématique et indifféremment dans toutes les bibliothèques à des titres de revues People. Comme je vous le dis, je pense que c'est intéressant de ne pas l'écarter tout de suite, d'y réfléchir et que ça peut tout à fait trouver sa place dans le cadre d'un projet d'établissement. Ça peut être pertinent pour compléter une offre qui ne satisfait pas pleinement une partie du public, qui ne se sent pas toujours reconnu dans l'univers des bibliothèques. On sent parfois une grande frilosité de la part des professionnels des bibliothèques à ce sujet, mais au final, je vous dis, je pense que cette frilosité, ils l'ont eu aussi à l'égard d'autres genres auparavant, comme la science-fiction, les romans policiers, la littérature sentimentale. D'ailleurs, c'était assez amusant, beaucoup de collègues ont fait le lien spontanément entre la littérature sentimentale et la presse people. Mais est-ce qu'elle est vraiment justifiée, cette frilosité, quand on regarde les chiffres de fréquentation des bibliothèques ? Je pense qu'il faut qu'on ouvre les bibliothèques aussi au public qui ne vient pas toujours et se reposer, en fait, être dans une démarche aussi de distance et de réfléchir, de prendre un peu de recul et de réfléchir aussi à nos pratiques. Donc la fonction de divertissement des bibliothèques, à cet égard, elle n'est pas à écarter. Les bibliothèques peuvent tout à fait offrir des collections encyclopédiques et des fonds plus ludiques, comme des revues People, sans pour autant, je pense, pour les bibliothèques, de renoncer à leur identité ou à leur valeur. Il s'agit aussi d'élargir les publics, car là encore, les bibliothèques créent quelque part des fonds pour un public qui leur ressemble. Et pour ce faire, il faudrait effectivement mettre en œuvre peut-être des outils plus systématiques d'évaluation de la demande du public, afin de pouvoir ajuster assez régulièrement la politique d'acquisition. Enfin, je vous invite à revendiquer un droit à l'expérimentation, en particulier dans les périodiques. C'est vraiment une gestion assez souple et de tenter des expériences. Alors là, je reprendrai vraiment la déclaration de Martine Poulain. Toute proposition de bibliothèque est une tentative. C'est ce qui fait quelque part des bibliothèques des lieux vivants, innovants et qui sont en phase avec leur territoire et leur public. Donc en guise de clin d'œil, je laisserai en conclusion la parole à une vedette, à une star, qui songeait à l'adolescence à devenir lui-même bibliothécaire, comme il le raconte dans ses mémoires. Quand vous grandissez, deux lieux institutionnels vous affectent le plus. L'église, parce qu'elle appartient à Dieu, et la bibliothèque publique, parce qu'elle vous appartient. La bibliothèque publique, c'est un bon moyen de compenser. Keith Richards, guitariste des Rolling Stones. Donc, à l'image des bibliothèques anglaises, chère au cœur de Keith Richards, tentons de faire de nos bibliothèques des lieux où toutes et tous se sentent reconnus et accueillis. J'espère par cette présentation vous avoir donné un peu de grain à moudre et puis quelques pistes de réflexion. Et je laisse place aux questions et au débat.
Merci beaucoup Mathilde. Là, on laisse vraiment la place au débat parce qu'on a pris de l'avance, c'est bien une première dans le cadre de ces journées d'études. Alors la petite différence pour Keith Richards, c'est que lui ne supporte pas la presse People.
Oui.
Mais bon, ça c'est compréhensible, hein, le connaissant. Vous avez peut-être des... Je te laisse faire, François.
Je voudrais un petit peu rebondir sur un élément que vous avez bien mis en évidence, qui est la frilosité du choix des bibliothécaires, le fait de proposer un certain nombre de leurs tentatives, hein, mais qui appartient à leur propre univers culturel, à ce qu'on a appelé quelquefois la culture télérama. Et je me demande si on ne pourrait pas... Alors, vous allez me répondre ou pas, parce que je ne sais pas du tout si ça fait partie de votre... travail. Je me demande si on ne peut pas élargir la réflexion que vous avez sur la presse People à d'autres types de presse, la presse sportive, la presse de bricolage, etc. Partant du principe que les bibliothécaires, c'est quand même un corps professionnel très féminin, très classe moyenne, et que du coup, toute une partie de centres d'intérêt plutôt masculins leur sont étrangers.
Oui, tout à fait. Par exemple, si on regarde le palmarès des revues les plus vendues en France, ces trois magazines de télévision. Je pense qu'aucune des bibliothèques n'a dans ses collections ces trois magazines de télévision. C'est Télé Z, Télé 7 jours et le supplément télé des quotidiens régionaux. Effectivement, on sent que oui, il y a une influence de notre. On influe sur nos acquisitions, on se ressemble. par exemple, je trouve assez significatif l'exemple du magazine Cosette. Je trouve qu'il est apparu très très rapidement, peu de temps au final après son apparition, dans les fonds des bibliothèques. Ce qui n'est pas du tout le cas d'autres magazines féminins comme Prima, comme Femme Actuelle, qui sont là depuis bien plus longtemps. Mais Cosette, je dirais, la public cible, c'est la bibliothécaire. Même si j'aime beaucoup Cosette, hein, je ne remets pas en question le contenu. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre de la distance et essayer de réfléchir aussi sur nos propres réflexes que nous avons autour des acquisitions et essayer de parfois voilà, de se décentrer. Et sur les magazines, alors je pense effectivement dans les grands établissements, mais l'offre est vraiment très importante. Les abonnements sont très conséquents dans les bibliothèques. Donc on peut quand même sur certains titres jouer là-dessus. De même, si c'est des bibliothèques qui sont en réseau, là encore, par exemple, cette année, j'ai trouvé normal qu'au niveau du réseau des bibliothèques de Bordeaux, on supprime 11 abonnements à L. Parce qu'on se retrouvait avec le L dans toutes les bibliothèques du réseau, alors que je ne vous cache pas que dans certains... Enfin, ce n'était pas du tout adapté forcément aux populations ou au territoire. Et il n'y a pas que L comme féminin en France. La gamme est très, très large. Et donc voilà, c'est de jouer aussi sur la complémentarité au niveau d'un réseau, surtout qu'aujourd'hui, avec une seule carte, on peut emprunter dans la plupart des bibliothèques. Il y a des bibliothèques aussi qui proposent des systèmes de navettes, donc les documents circulent très facilement. Mais on reste effectivement, je pense, influencé par son éducation, ses valeurs, ses études. Voilà, les bibliothécaires, Nicole Robin le dit peut-être de manière très incisive, mais on fait partie des classes moyennes et on fait des collections pour un public de classe moyenne. Donc il faut à un moment donné, effectivement, sur certains supports, réfléchir et faire une petite mise à distance et peut-être, là encore, je pense, développer des outils. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait à la bibliothèque de Toulouse, c'est de mettre en place une gestion très, très souple pour avoir un retour très rapide sur les nouveaux titres qui sont proposés. Ça permet de voir vraiment si l'offre est adaptée ou pas. Et je pense que c'est pas toujours simple hein, quand on a la tête prise par le quotidien, mais de développer de plus en plus des mesures de satisfaction du public autour des collections. Voilà.
Oui, bonjour. Alors moi, je travaille à la médiathèque d'Orléans. Donc, je suis en charge de l'accueil et des services au public. Et je me confronte à mes collègues donc, en charge des acquisitions. Parce que, justement, c'est ce que vous disiez par rapport à la presse. Donc, on fait des choix, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va prendre. Nous avons Paris Match, c'est tout. Et en revanche, on est abonné au kiosque, où là, c'est un bouquet. Et donc là, on accepte ce qu'il y a dans le bouquet. Et donc, on a la présence de cette presse. Sauf que ce public ne va pas forcément sur ces ressources-là. Et ce serait, mon collègue de la presse n'accepterait pas d'avoir sur ses présentoirs Closer. Donc, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe, du coup, avec ces ressources en ligne, comme vous le disiez, qui...
Tout à fait. Hein.
Et moi, ça me pose question.
Je trouve que ces ressources électroniques, qui sont très chères, qui coûtent très cher aux bibliothèques, on a quelque part du mal à faire le lien entre l'offre physique et l'offre virtuelle. Et souvent, d'ailleurs, il y a une étude, je crois, récente sur les abonnements électroniques qui montrent qu'elles sont sous-utilisées au final par le public. Et je pense que c'est aussi lié en physique, dans les banques d'information des bibliothèques, le lien ne se fait pas naturellement lors du renseignement à l'usager vers ce type d'offre. Et ça, c'est vraiment... je pense qu'on va devoir se pencher dessus pour essayer de communiquer davantage sur cette offre. Et effectivement, hein, les bouquets, que ce soit Europresse, le kiosque, les bibliothécaires n'ont pas la main. Je me souviens, il y a une année où Le Monde a signé un contrat d'exclusivité avec Europresse. Donc ça veut dire, donc à l'époque, donc je travaillais à Chambéry, on était abonné à Présence et on avait pris Présence parce que le Monde, on avait vu les statistiques, était la ressource la plus consultée. Du jour au lendemain, sans nous avertir, il n'y a plus Le Monde dans Présence. Et on a eu beau appeler, montrer qu'on n'était pas tout à fait satisfait, on nous a mis devant le fait accompli et finalement on avait peu de moyens d'action pour revenir dessus. Ça s'est passé vraiment en dehors de nous, et c'est toute la difficulté. Alors peut-être que ce que en discutant avec la personne travaillant à Europresse, je lui indiquais si à terme on ne pouvait pas quelque part pouvoir faire un choix, monter aussi le bouquet qui est proposé. Donc je pense que ça viendra peut-être, mais on le voit bien aujourd'hui, on est vraiment dans une période de transition où toutes les ressources électroniques, le modèle finalement économique n'est pas stabilisé. Et là, on est dans une période de transition où à terme, je pense qu'il va y avoir plus d'offres qui seront proposées, que ce soit d'ailleurs pour les revues, mais aussi pour les livres électroniques ou par exemple la VOD ou la musique en ligne. Mais là, on est vraiment dans une période de transition et pas du tout stabilisée sur cette question. Et d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas dans votre bibliothèque, mais les devis sont très différents. Enfin, c'est chaque bibliothèque paye une somme différente pour un abonnement électronique. Donc c'est ça aussi qui, je pense, sera intéressant de rationaliser, de mutualiser là-dessus. Mais oui, c'est un peu schizophrénique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des revues People qui sont sur des abonnements électroniques, elles y sont, et les bibliothécaires en réel font comme si elles n'existaient pas.
S'est endormi. Merci Christelle. Mais j'ai pas une question, j'ai trois questions.
Oula.
Mais voilà. La première question est plutôt d'ordre. Mais vous y avez un tout petit peu répondu avec l'exemple du magazine Elle. Elle serait d'ordre professionnel ou personnel. C'est-à-dire au sortir de ce travail qui est très riche et qui nous confronte d'ailleurs à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'analyser, hein, la presse People. Au sortir de cette enquête et de cette réflexion. Est-ce que ça vous fait bouger, vous, en tant que professionnel, dans votre rôle de responsable du pôle lecture publique à Mériadec Bordeaux ? Est-ce que ça vous incite à essayer de faire des choses en direction de la presse People et en direction de vos collègues, éventuellement ? Première chose. La deuxième petite chose, c'est beaucoup plus incident, mais c'est peut-être une question qu'on peut poser à la salle aussi. Est-ce qu'on a des éléments, des points de comparaison avec d'autres pays à l'étranger sur cette question de la présence de la presse ou de l'absence de la presse People dans les bibliothèques de la culture publique, voire dans les bibliothèques universitaires, pourquoi pas, parce qu'on pourrait aussi étendre le débat. Et la troisième question, c'est plus un sujet de réflexion. Vous faisiez une comparaison que je trouve tout à fait justifiée et pertinente entre la presse People aujourd'hui et hier, la question des mauvais genres en bibliothèque, la science-fiction, le polar, voire la bande dessinée ou le manga. Mais alors, pour le polar, la bande dessinée et le manga, moi, sur lesquels j'ai quand même pas mal travaillé, ce qui s'est passé, c'est que comment on a pu revaloriser ces soi-disant mauvais genres, comment on a pu les intégrer aux collections publiques, parce qu'une partie des lecteurs, des critiques, des entrepreneurs de morale a pu séparer à un moment le bon grain de livret et distinguer une production à haute valeur ajoutée à la différence d'une partie de la production qui serait à zéro valeur ajoutée. Donc c'est un travail d'élitisation, quoi. Est-ce que ça serait possible avec la presse People ? C'est la question que je me pose et que du coup je vous pose également.
Alors. Donc, en fait, au départ aussi, pourquoi cette question m'a intéressée ? Parce que quand je travaillais pour les bibliothèques municipales de Chambéry, on avait eu de très, très grands débats à propos de l'abonnement ou non de Voici. Et j'avais trouvé les débats passionnants, et passionnés d'ailleurs. Mais voilà, donc au final, on s'était abonné à Voici. Et voilà, il y avait déjà quelque part une réflexion qui avait commencé. Au niveau de Bordeaux, je ne vous cache pas que oui, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. En particulier, les bibliothèques municipales de Bordeaux, c'est 11 bibliothèques. Donc je pense que c'est tout à fait pertinent d'imaginer que l'offre de revues n'est pas la même selon les bibliothèques, qui sont elles aussi de taille, d'âge différents. Donc c'est tout un travail que je tente d'amorcer avec les collègues. Effectivement, je pense qu'il va falloir travailler dur à convaincre certains collègues. Ça, c'est évident. Hein. Il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Ça, je pense que ce ne sera pas toujours simple. Mais encore une fois, je pense que c'est les usages... Enfin, la perception autour de ces revues, c'est quand même un peu décomplexé. Et je pense que pour aussi un certain nombre de nos collègues, c'est le cas. Donc, et encore une fois, ce n'est, en particulier pour la bibliothèque de Bordeaux, ce serait une goutte d'eau parmi le nombre de revues proposées. Donc, je ne suis pas sûre qu'on perde notre âme à prendre 3 abonnements sur un total. On doit proposer plus de 200 et quelques abonnements. Je pense que la proportion reste raisonnable. Donc oui, c'est moi je voudrais voilà en particulier je citais elle parce que bon moi je suis pas arrivée depuis très très longtemps mais ça m'a étonnée lors de cette première réunion autour des acquisitions de périodiques voilà je leur ai dit il y a pas que elle comme magazine féminin et voilà donc il faut proposer d'autres titres ce qu'on fait déjà des bibliothèques de quartier mais je trouve qu'on est dans une bonne démarche de réfléchir à des complémentarités de collections entre les différentes bibliothèques du réseau. Voilà, alors les exemples étrangers, effectivement j'en ai pas parlé mais je l'évoque dans mon mémoire d'études. Donc là, pour le coup, c'est vrai que pour la partie anglo-saxonne, que ce soit américaine ou anglaise, là-dessus, on est plus dans le rapport, c'est plutôt l'offre et la demande. Donc il n'y a pas véritablement de complexe à propos de cette revue. Donc on retrouve, que ce soit dans les bibliothèques américaines ou les bibliothèques anglaise, on en retrouve un certain nombre de revues People. Mais j'ai regardé aussi sur les catalogues espagnols ou italiens. Par exemple, la bibliothèque municipale de Milan propose quasiment l'intégralité des titres People de la péninsule. Sachant qu'en Europe, que ce soit en Espagne ou en Italie, la presse People, c'est un très gros poids lourd de la presse. On est sur de la diffusion et de la vente encore plus importante qu'en France. Donc, alors en Espagne, c'est assez intéressant, c'est que ça dépend, c'est par province. Quand on regarde le catalogue, c'est des catalogues par province espagnole. Donc, par exemple, sur la province Pays Basque espagnole, il n'y a aucune revue People. Par contre, si on regarde la province andalouse ou Saragosse, il y en a énormément. On en retrouve. Donc voilà. J'avais regardé aussi sur la presse. En Finlande, donc là aussi on retrouve un des journaux finlandais le plus connu sur la presse People qu'on retrouve aussi dans beaucoup de bibliothèques finlandaises. Donc alors là aussi, est-ce que ça peut s'expliquer par l'approche qui est peut-être un peu différente des professionnels de bibliothèques dans les pays anglo-saxons ou scandinaves ou même espagnols et italiens sur l'offre et la demande. C'est vrai que, encore une fois, je pense qu'en France, c'est lié aussi à l'histoire des bibliothèques. On a encore des réflexes teintés de prescription vis-à-vis des lectures proposées ou des fonds proposés vis-à-vis de nos usagers. Et donc, ça se voit. Vraiment, il y a le nombre de revues qu'on trouve aux États-Unis, elle est vraiment importante. Ce n'est pas une minorité de bibliothèques qui en propose. Et pour le dernier point, effectivement, sur le... Alors, est-ce que, quelque part, on va arriver à rendre noble la presse People ? je vous dis, je pense que en me plongeant vraiment dans cette presse, on s'aperçoit quand même, et même en regardant les témoignages, vraiment, il y a une distance qui est réelle. Enfin, les lecteurs de ce type de presse sont tout à fait conscients du message qui est envoyé et ce que ça révèle. Il y a pas de, ils se sentent pas forcément manipulés, aliénés. Voilà, c'est une revue divertissante, qui parfois insolente, hein, qui se moque plus ou moins gentiment des vedettes. Après, en termes de qualité, enfin, c'est franchement aujourd'hui, quand je vois que Paris Match est dans l'ensemble des dans vraiment un très grand nombre de bibliothèques municipales, des titres qui vraiment, parce que faut quand même en être conscient. Moi, j'avoue que j'ai été surprise, c'est l'explosion de ces pratiques chez les jeunes. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment des usages vraiment quotidiens et fréquents et réguliers autour de cette presse. Donc, des titres comme « Oups », effectivement, moi, parfois, en couverture, je connais personne, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que ça parle à un certain nombre de publics. Et le contenu... Moi, je ne le trouve pas, enfin, ce n'est pas déshonorant. Par contre, après, je vous dis, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune étude académique sur ce type de presse. Donc, je pense que si on veut la rendre quelque part un peu plus légitime, il faudra peut-être se pencher sur cette presse et sur son image et sur son histoire. Peut-être, donc ça viendra peut-être, ou sinon, je pense que là-dessus, le public a déjà décidé, quoi. On est... Voilà.
Moi, je trouve vraiment très intéressant ce que vous avez rappelé, que vous avez dit au début, que en fait, la perception par les lecteurs de ces revues n'est pas celle qu'on imagine de l'aliénation, de la domination. Et le lecteur, on sait bien maintenant qu'en fait, il fait son choix. Et du coup, ma question revient aussi sur un exemple que vous avez donné sur on va acquérir de la presse people pour des bibliothèques hors les murs. Moi, je trouve que d'une certaine façon, c'est un peu contradictoire dans la mesure où, de toute façon, en effet, les lecteurs de cette presse-là, d'après ce que vous dites, ce sont des lecteurs qu'on va retrouver absolument partout. Mm-hmm. De la même façon qu'en librairie, j'avais été un peu heurté par les espaces culturels Leclerc qui faisaient des offres particulières pour les quartiers populaires. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez éclairer?
Ah oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. C'est-à-dire que le titre était présent dans la bibliothèque, mais il était régulièrement... On choisissait un certain nombre de documents qu'on amenait à l'extérieur. Donc, ce n'était que quelques numéros. Mais le titre était physiquement, dans la bibliothèque. Il avait été acheté au départ. Donc, ça, c'était à Chambéry. Il avait été au départ parce qu'on avait des demandes régulières du public qui nous disait, mais pourquoi vous achetez pas voici, on avait un système de cahier de suggestion et ça revenait très très régulièrement. Et alors ça, plus d'autres critiques sur les revues. Il y avait une dame qui disait, on ne trouve que connaissance des arts. Bon, c'était faux, mais elle ne voyait que ça dans les collections, alors que c'était pas le cas. Donc effectivement, ce que je voulais dire, c'est que c'est des revues qui étaient présentes en réel et qu'on a amenées hors les murs parce que lors des premières séances qu'on a pu faire auprès des résidences sociales, à la maison d'arrêt et tout ça, quand on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fond de la bibliothèque, c'est revenu tout de suite. Ça, les documentaires récits, vécus, enfin voilà, il y a des choses qui revenaient vraiment très très régulièrement de la part de ce public ou des personnes qu'on allait voir dans ce cadre-là. Mais non, moi je pense qu'au contraire, je veux dire, c'est comme... D'ailleurs, c'est pas du tout ressorti, les bibliothèques qui ont acquis ces revues, c'est aussi bien à la centrale, je dirais, que dans les annexes. Il n'y avait pas de stigmatisation en disant on va les mettre dans les quartiers difficiles des annexes. C'était assez bien réparti.
Bonjour, pour reparler Bonjour. Des quartiers difficiles, on n'a pas du tout évoqué les élus. Or, il n'y a pas que les bibliothécaires qui sont frileuses. Je pense qu'il y a un problème au niveau des élus qui veulent justement décloisonner, enlever ces ghettos, et pour eux, implanter une bibliothèque, une annexe ou une bibliothèque dans dans des quartiers difficiles, c'est entre guillemets pour rehausser le niveau. Et il prendrait, je pense qu'il y a il donne aux bibliothécaires une mission qui serait effectivement de ne pas faire de démagogie en étant trop près des désirs des lecteurs. Donc on est un petit peu pris dans un étau. C'est pas très facile de faire la part des choses et de savoir quelle proportion donner et quelle importance et comment valoriser les fonds.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'avais souhaité rencontrer un élu dans le cadre de cette recherche et je n'ai pas eu de réponse. Donc, voilà, parce que je pense que, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a même certains élus qui ont une vision, comme une partie de notre public, qui parfois sont même plus traditionnalistes, que ce soit autour, je dirais, des revues de People, mais ça peut être aussi autour de livres autour de la violence, de la nudité. Ils sont parfois plus durs que nous vis-à-vis de ces questions-là. Donc, oui, c'est une bonne question, parce que... Après, je pense que ce serait triste d'investir dans des bâtiments et dans des collections et donc de faire une belle réalisation dans un quartier et qui au final sera une coquille vide parce que non fréquentée, parce que ça ne leur parle pas, ils se disent c'est pas pour moi. Et au contraire, ça peut être même ressenti de manière violente de la part pour ces populations qui quelque part... Se disent on m'impose quelque part des collections et une culture dominante que moi je reconnais pas. Donc c'est difficile de faire passer parfois ce message là auprès de nos élus et de leur montrer que on ne peut pas faire des choses il faut faire des choses qui correspondent aussi au territoire desservi et à la population. Mais oui. Il faut prendre son bâton de pèlerin.
Oui, vous avez fait au début, je pense que c'était vraiment important, une sorte de typologie à l'intérieur de la presse People, qui n'est pas une masse indifférenciée, et qui a des publics très particuliers, suivant le type de presse. Et alors je me disais que vous avez également inclus, et je pense que vous avez également tout à fait raison, Vanity Fair dans le panier. Est-ce que un des risques serait pas que Vanity Fair correspond beaucoup plus à la vision d'un magazine acceptable par des bibliothécaires? Est-ce que le danger, est-ce qu'il faut pas être particulièrement clair là-dessus et dire que Vanity Fair ne plaira pas forcément aux amateurs de Oops?
Je suis tout à fait d'accord, parce que Vanity Fair, en plus, c'est des reportages longs, c'est très particulier, mais on est quand même sur, je veux dire, la thématique People, puisque c'est uniquement sur des personnes célèbres. Et donc, justement, comme c'est un nouveau titre, je me posais la question un peu de sa perception. Et donc, du coup, comme je vous dis, à la Bibliothèque de Toulouse, ils ont mis en place un système un peu souple et qui permet de tester les nouveaux titres. Et donc, j'ai demandé à ma collègue de Toulouse, parce que du coup, elle avait proposé Vanity Fair auprès du public. Et si elle avait eu du retour vis-à-vis de ce titre. Ça ne marche pas du tout, parce que le public, comme vous le dites, de la presse People... se sent pas du tout. Ça correspond pas à ce. C'est pas son référentiel quelque part. Et puis quelque part, ça fait peut-être un peu double emploi avec Paris Match, mais c'est pas tout à fait ça parce que ça joue beaucoup sur le glamour et sur aussi les réseaux et tout ça. Donc j'attends de voir si j'ai d'autres retours de collègues. Mais par exemple à Toulouse, ça a pas très bien pris. Donc elle me dit qu'elle ne pensera pas s'abonner à ça. Par contre, un titre comme Oups, en particulier chez les adolescents, marche très très bien. Voilà.
Oui, c'est juste pour reprendre exactement cette idée. Quelqu'un a parlé de comparer avec la presse sportive. Ce que vous dites sur Vanity Fair, ça me rappelle il y a quelques années... quand les bibliothécaires avaient beaucoup de mal à s'abonner à des revues sportives. Je me rappelle d'une revue sportive généraliste, je ne me rappelle plus de son titre, mais il y avait effectivement tous les sports et des longs et des articles assez conséquents, parce que bah, ça plaisait mieux aux bibliothécaires. Au moins, il y avait un peu de contenu, puis il y avait tous les sports, comme ça, on n'en choisissait pas. Eh bien, c'est exactement pareil, ça n'a pas marché du tout. Et on se rend compte qu'il vaut mieux carrément aller directement au but, acheter l'équipe, acheter les sports que les gens pratiquent et aiment, plutôt que d'essayer de tourner autour du pot et de prendre un truc généraliste qui ne plaît qu'aux bibliothécaires, qui leur donne bonne conscience. Ça ne marche pas avec le public. Eux, ils veulent, c'est direct. Voilà, donc c'est exactement la même chose.
Ah oui, ben, je vous défie d'enlever l'équipe des bibliothèques. Ce serait une révolution, mais je suis d'accord avec vous. Et effectivement, il y a vraiment des revues qui font partie intégrante de l'environnement familier, de l'imaginaire de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, les personnes y sont attachées, effectivement. Oui.
Merci beaucoup, Mathilde Perroux. Alors, il faut préciser que le mémoire de Mathilde, comme tous les mémoires qui seront d'élèves conservateurs qui seront présentés ici, est disponible en ligne sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Et donc, vous le retrouverez très, très facilement. On en donnera les coordonnées, cela dit, sur le site de la BPI.